Le projet que nous portons, c'est aussi un projet pour la ruralité, un projet pour toutes nos campagnes.
La première chose que je dénonce, c'est qu'on abandonne les territoires.
Il y a une révolte au départ des Gilets jaunes contre l'écologie punitive.
Des espèces de parisiens là, qui font 7 minutes de vélo par jour, ils ont l'impression de faire repousser la forêt amazonienne.
Il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale, qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources.
Vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement.
Le Morimont, c'est un endroit qui est lié à ma famille depuis 2 siècles.
Églantine Berthet, gérante du Morimont.
Où ma famille n'était pas présente pendant ces 2 siècles, et c'est avec ma mère il y a en gros 10-15 ans qu'on a saisi l'opportunité de faire quelque chose de cet endroit. Donc à l'époque où j'étais encore à Paris et où j'étais encore en train de finir mes études supérieures, enfin de commencer même mon cycle d'études supérieures. Donc c'est une ancienne ferme du XVIIIe siècle qui, quand on est arrivé, c'était un peu en ruine de partout. Il y a plein de bâtiments, il y a plein de terrains autour. Et toute notre thématique depuis 5 ans, c'est justement de définir ce lieu. Et on n'a toujours pas trouvé comment on le définissait. Du coup, on peut définir parce que ça n'est pas. Donc, ça n'est pas vraiment un restaurant, ça n'est pas vraiment un hôtel, ça n'est pas vraiment un domaine de mariage, ça n'est pas vraiment un lieu de communauté. C'est un truc un peu en cours de transformation déjà depuis 5 ans, où on accueille des gens de différentes façons. Donc ça va être, effectivement, il y a des gens qu'on accueille au travers d'une association, il y a des gens qu'on accueille au travers d'une structure commerciale qui est une SARL, et il y a des gens qui vivent sur place. Et les gens qui vivent sur place, il y a plusieurs centres d'intérêt. Il y a une partie ferme avec de la production de légumes et de fleurs. Ça, c'est un projet qui est vraiment en cours de montage. Il y a des personnes qui s'installent à moyen terme. Il y a des projets de développement d'un projet pédagogique ouvert sur d'autres personnes, ça c'est en cours. Et puis il y a aussi des gens qui viennent bosser, qui sont employés par la SARL et qui croisent des volontaires internationaux qui viennent eux pour plutôt des projets associatifs.
Le Morimont est situé dans le pays du Sundgau, à 2 km de la frontière suisse. Littéralement, Sundgau signifie région du sud, c'est le sud d'Alsace. Situé entre les Vosges et le Jura, barré par la ligne de partage des eaux entre la mer du Nord et la Méditerranée, le pays du Sundgau est une région agricole dont le relief se compose d'une succession de collines aux pentes faibles. L'agriculture occupe 69% du territoire, avec plus de 1500 exploitations. Alors que l'ouest est resté à vocation d'élevage, l'est s'est orienté vers une dominante céréalière. Ce pays est également réputé pour ses étangs, qui lui apportent encore une biodiversité importante. Situé à la frontière avec la Suisse, le pays du Sundgau est cerné par 4 grandes villes dont il subit l'attractivité et l'influence : Mulhouse, Bâle, Montbéliard et Belfort. Il en résulte que le Sundgau s'est pendant longtemps développé en vase un peu clos et donne aujourd'hui l'impression d'un monde replié sur lui-même, aux traditions encore prégnantes. Le Sundgau peut alors être considéré comme une marge géographique. Mais si marginal équivaut vite à accessoire, délaissé, dévitalisé ou encore territoire musée, ces déterminants n'empêchent pourtant pas le territoire, à l'image du Morimont, d'être difficile à caractériser et de révéler des dynamiques plus complexes qu'il n'y paraît, à l'intersection entre plusieurs paysages environnementaux et socio-économiques.
On est ici, nous, plus vers le territoire de Belfort, Ferrette, plus vers la Suisse.
Jeanne Roy et Luc Bergelag, cofondatrices et cofondateurs de Radio Quetch.
Chaque territoire a un peu des influences de son territoire voisin, genre. Mais du coup, l'idée, c'est aussi de réunir tous ces coins du Sungo où, en plus, ils parlent même pas le même alsacien, quoi, entre Ferret, ici, d'Admarie, et un peu, c'est quoi, l'autre côté, on pourrait
dire. C'est vers le Trois Frontières, un peu plus.
Sirène, c'est tout ça, quoi.
Chirba, quoi.
Saint-Louis, enfin, pas loin de Saint-Louis, là, dans les campagnes là-bas, c'est aussi encore le Sungo, mais c'est encore autre état d'esprit, avec pratiquement que des gens qui travaillent en Suisse, qui vivent dans le Sungo, qui font leurs courses en Allemagne. Donc c'est le trio de choc pour les Sungoviens. Ici, c'est le Danemarie, c'est le côté plutôt pauvre du Sungo, si on peut dire, proche du territoire. Aussi, qui a aussi des gros clichés qui poursuivent le territoire de Belfort.
Donc moi, je suis né, je suis pas né dans le Sungo. Moi, je suis né. Je suis né à Colmar, mais j'ai vécu dans la plaine d'Alsace.
Arnaud, membre du système d'échange local du Sungo.
Depuis ma naissance, les paysages là-bas, donc dans la plaine alsacienne, ont beaucoup évolué, ont beaucoup changé. Donc je dirais que l'esprit traditionnel était maintenu pendant très longtemps. Et il y a eu une mutation il y a quelques décennies maintenant. Et donc ça a évolué énormément, c'est beaucoup industrialisé. Les paysages sont très uniformes, des champs énormes, très peu d'arbres entre chaque champ. Et c'est un peu comme les grandes plaines de culture, hein. C'est une grande plaine de culture maintenant, la plaine d'Alsace. Et donc moi j'ai retrouvé dans le Sungo un petit peu ce que je retrouvais quand j'étais plus jeune par chez moi. Donc ce qu'il y avait dans la plaine d'Alsace, je le retrouve maintenant dans le Sungo, mais je vois aussi que les pratiques agricoles évoluent aussi énormément. Et je pense que dans 30 ans, on a des paysages très uniformes aussi, comme ça l'est actuellement le cas dans la plaine d'Alsace. Enfin, moi, c'est ça que je vois un petit peu. Mais bon, c'est encore très présent, la tradition dans le Sungo, les maisons alsaciennes à colombage et ainsi de suite. Il y a encore beaucoup de vergers traditionnels. Il y a un mélange de la polyculture, hein. Il y a beaucoup de prés, il y a de la culture aussi intensive, hein, mais quand même à moindre mesure par rapport aux grandes plaines de culture. Et donc, moi, c'est tout ça ce qui me plaît dans le coin, là. Donc, voilà, c'est pour ça que je me suis un peu décalé. Voilà.
Moi, j'ai grandi dans le canton du Jura.
Membre de la cantine de Delémont, en Suisse.
Mais je considère que c'est quand même une région rurale, pour plusieurs raisons. Déjà, si je ne me trompe pas, c'est le canton le plus pauvre de Suisse. Après, la plus grande ville du canton, 13 000 habitants ou 12 000 habitants, enfin c'est rien du tout. Il y a quand même cette tendance, je pense, à l'urbanisation. On est dans une situation où il n'y a jamais eu autant de trucs qui se construisent à Delémont, quoi. De bâtiments, etc. Donc je pense qu'il y a une tendance à l'urbanisation qui est grandissante partout dans le monde. Mais en comparaison, le canton du Jura, je pense, ça reste quand même un canton vachement rural. En ville, il y a des moutons juste là à côté. C'est pas à nous, hein, en plus, cette fois. Mais... Des moutons côté du McDo. Je sais pas si ça veut dire que c'est... c'est ça le paradoxe, ça. Des moutons à côté du McDo. C'est ça le gros paradoxe, c'est que... Voilà, il y a tendance à l'urbanisation, mais d'un côté, ouais... Le Jura, c'est un peu ce truc-là, quoi. Les Jurassiens sont contents que ce soit quand même pas trop urbanisé. Je regarde un reportage sur Arte qui est passé il y a quelques jours, puis c'était dans le canton du Jura, puis c'était là, oui, le Jura, c'est encore un endroit où les gens prennent le temps, où les gens sont à la campagne, où... Puis c'était vraiment ce truc-là, quoi. Puis c'est, voilà, Arte, c'est une chaîne franco-allemande. Puis c'était marrant de voir un peu la perspective qu'ils avaient du canton du Jura, puis tout ça. Je ne suis pas fondamentalement en désaccord. Je pense qu'il y a ce côté-là. Les gens sont fiers, mais d'un côté... je pense que c'est justement une fierté de conserver ces valeurs, qui est quelque chose de, je pense, assez mauvais en soi, qui pousse les gens à rester un peu un canton rural, en fait. Mais pas pour de bonnes raisons. En fait, le canton ne reste pas rural parce que, justement, ils ont envie d'avoir des valeurs plus conscientes, etc. Non, ils sont plus ruraux parce qu'ils veulent rester comme on était avant, puis c'est comme ça, et puis on veut pas d'étrangers, puis les frontaliers viennent voler notre travail. C'est pas un canton d'extrême droite, mais c'est franchement, il faut pas se voiler la face. Les gens, s'ils veulent conserver des valeurs comme ça, disons assez proches de la nature, je pense pas que 100% de ces personnes-là, c'est pour des raisons à 100% réfléchies, en mode c'est parce que c'est bien. En fait, c'est plutôt parce que c'est comme ça, mais ça a toujours été comme ça.
Sachant qu'ici, c'est un peu, entre guillemets, un faux milieu rural. Hein, parce qu'en fait, la majorité des gens qui habitent ici sont des rurbains.
Éric Osilio, directeur de la Maison de la Nature.
C'est-à-dire des gens qui habitent à la campagne, qui travaillent en ville et qui, au niveau de la mentalité, sont des vrais urbains, qui ont les besoins des urbains. Ils ont besoin d'activités culturelles pour les enfants. Ils ont besoin d'avoir des commerces de proximité. Ils ont besoin d'avoir de la culture, du cinéma, etc. Et tout ça, ils n'ont pas forcément ici, donc on va le trouver en ville. Mais les vrais ruraux, les vrais gens qui utilisent le territoire pour vivre, il y en a très très peu finalement dans le Tsungo. Donc on est dans un territoire qui est assez peu, qui est rural en apparence, mais c'est de la fausse ruralité, c'est pas un vrai territoire rural. La ruralité, elle est liée à le paysan, l'agriculteur, et c'est un rural parce qu'il va utiliser le territoire, il va vivre sur le territoire, et économiquement, il va utiliser ce territoire pour faire une activité économique. Pour moi, la ruralité, c'est un ensemble de gens qui vont travailler et œuvrer pour leur territoire et dont les ressources vont dépendre de ce territoire-là. Pour moi, la vraie ruralité, c'est l'Auvergne, c'est les Ardennes, c'est des territoires. Nous, on est déjà des territoires périurbains, on n'est plus vraiment des territoires ruraux. On est dépendant de Bâle, de Mulhouse et de Belfort, ou de Sochaux-Montbéliard à cause de Peugeot. Si vous enlevez ça, les 80% de la population du Tsungo qui n'existe plus, quoi. Alors qu'avant la guerre ou tout de suite après la guerre, on avait une population qui était rurale, c'est-à-dire qui ne vivait que sur ce territoire-là. Et c'est pour ça que le Tsungo était... pendant longtemps, vous savez, le Tsungo, c'était considéré comme les cutéreux de l'Alsace, c'est-à-dire les paysans qui sortaient jamais de leur Tsungo. Le Tsungo, c'était en dehors des grands axes de communication, etc. Bon, tout ça, ça n'existe plus. Pour moi, la vraie ruralité, oui, c'est des gens qui vivent sur leur territoire, qui ont des liens sur leur territoire et qui économiquement utilisent leur territoire pour vivre. Alors, on a un cadre de vie très agréable, mais néanmoins, il y a plein de problématiques environnementales qui sont des problématiques, des problématiques de nature, c'est-à-dire qu'on a comme partout une forte diminution de la biodiversité parce que, pas trop sur la vallée de la Largue, mais sur la vallée de l'Ile, on n'est que sur de la grande culture, notamment de la maïsiculture, avec une utilisation de produits phytosanitaires qui est très importante. On a des problématiques de pollution de l'eau, parce que nous on a des petites nappes, ce qu'on appelle des nappes perchées, qui sont très sensibles à la pollution de l'eau, et notamment comme sur les crêtes, en fait, c'est là où on va faire le maïs, on a des pollutions importantes en pesticides, en nitrates, etc. On a des problématiques de mobilité. Il faut savoir que dans le Tsungo, il n'y a quasiment pas de transport en commun. On a une ligne de train qui est où il y a très peu de trains finalement, et donc c'est la voiture qui est privilégiée comme transport. Donc ça, c'est un vrai problème à la fois de pollution atmosphérique, de vie dans les villages. Si vous avez traversé les villages du Tsungo, vous avez vu que c'est des villages rues. Donc toutes les maisons sont au bord d'une rue, et quand vous avez la grande rue avec 10 000 voitures qui passent par jour, la vie de village, vous oubliez, c'est mort, quoi. Donc des problématiques de bruit, etc. Voilà, biodiversité aussi, même si on a quelques espèces remarquables dans le Tsungo, on a quand même un mitage des milieux naturels remarquables, notamment un mitage des forêts, sachant que le Tsungo, en fait, c'est la transition entre le Jura et les Vosges. Donc par exemple, quand le lynx va dans les Vosges ou quand le loup va dans les Vosges, il passe par le Tsungo, en fait. Il passe de massif en massif. Donc voilà. Il y a aussi tout un tas de problématiques environnementales dans le Tsungo qui sont très présentes, quoi.
Je pense que si on pouvait se projeter 20 ans en avant, on serait relativement effrayé de voir à quoi ressemble le Tsungo à ce moment-là.
Bernard Ley, élu référent de la démarche climat-air-énergie du PETR du Tsungo et maire de Überstrass.
Parce que moi, je me dis toujours qu'il y a quelques milliers d'années, le Sahara, c'était une forêt, hein. Puis aujourd'hui, c'est un désert. Et puis moi, quand je regarde la forêt par chez nous, moi, je me promène. Moi, je suis d'une culture vraiment rurale, hein. Vous l'avez peut-être remarqué, hein. Non, mais je veux dire, moi, j'ai l'habitude d'être sur le terrain. Alors, j'ai des idées, je les exprime peut-être pas aussi bien que certains autres, mais moi, je me rends compte que la forêt, elle est en train de dépérir chez nous, quoi. Elle est vraiment en train de dépérir. Et un arbre qui meurt, qui a 50 ans ou 100 ans, il faut 50 ans ou 100 ans pour le remplacer. Et puis en plus de ça, on ne sait même pas avec quelle espèce le remplacer, parce que si les arbres meurent, ça va accentuer le phénomène de sécheresse. parce que s'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'eau, hein. Faut pas se leurrer. Et donc on ne sait même pas ce qu'il faudrait planter maintenant pour que ça tienne le choc, parce qu'il y a eu une période où on a planté que du frêne, parce que c'était l'essence qui était un peu à la mode, et puis ça poussait relativement vite. Et puis maintenant, on se rend compte que tout ce qu'on a planté il y a une vingtaine d'années, il y a une trentaine d'années, c'est en train de mourir, hein. Ou alors c'est déjà mort. Donc, en tant que, je vais dire, relativement amoureux de la forêt, moi, je me pose vraiment des questions.
Je vais vous donner un exemple. Nos maraîchers, cette année, ils ont très peu de légumes, ils sont obligés de les acheter.
Frédéric Schwab, président de RENAMAP et agriculteur à La Fruitière.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Normalement, dans le concept de la MAP au départ, c'est de dire que les gens sont solidaires. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Pour ne pas perdre leurs AMAP, ils ont tellement peur de perdre leurs AMAP qu'ils finissent par aller acheter des choses pour pouvoir faire des paniers qui tiennent la route l'hiver. À cause de la sécheresse. Hein.
Ça se ressent, la sécheresse, ici?
Ah ouais. On a eu 2 années de suite. Nous aussi, on a beaucoup moins de production que... Donc à un moment, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on continue à faire les autistes ou voilà, tant que les magasins sont pleins, on ne se pose pas de questions? Au jour d'aujourd'hui, il est grand temps que les gens ouvrent les yeux, franchement. Et c'est même plus une question d'être militant, hein. À un moment donné, il faut sortir de ça. Hein. Je pense que là, ça c'était bon pour les 68 heures. Au jour d'aujourd'hui, il y a une telle urgence que je comprends pas comment vous dire qu'on n'ait pas plus pris ce problème à bras le corps. En fait, ici, on n'est plus que des cités dortoirs. Économiquement, c'est mort.
Est-ce que c'est un problème aussi pour l'engagement, en fait ?
Bien sûr. En fait, le stéréotype du frontalier, c'est un gars qui vit en Alsace, qui travaille en Suisse, qui consomme en Allemagne. C'est grosso modo ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais c'est vrai que voilà, ils arrivent à être un peu moins chers de l'autre côté, enfin ils pensent. Donc ils vont en Allemagne. Donc les commerces ici, ils ont du mal à lutter contre ça. Donc ce qui fait encore baisser les prix en fait.
Ce qui nous tracasse, nous, en tant qu'asso, et par rapport aux dynamiques, justement, rurales, c'est la proximité de la Suisse. C'est-à-dire que la Suisse embauche avec des salaires 4 fois plus importants que les nôtres. Et il y a une dynamique culturelle dans les villes de Suisse qui est importante. Je me suis quand même fait entendre dire, lors de ces échanges sur le tourisme, il y a 5 ans, quand je disais mais ce serait chouette qu'il y ait justement des dynamiques culturelles rurales, je me suis quand même entendu dire par le maire de Ferrette à l'époque, qui est président de l'office de tourisme, oui, mais les gens, s'ils veulent de la culture, ils vont dans les villes, ils vont à Bâle et ils vont à Mulhouse. Moi je trouve ça triste, enfin, parce que je crois qu'il y a aussi une place pour de la culture dans le rural, avec les moyens du bord, quoi. On a pu comparer en fait les différentes dynamiques par rapport à ce qui se passe en Bretagne, par exemple, où eux, ils sont coincés. Après eux, il y a la mer, quoi. Donc ils peuvent pas aller chercher un plus gros salaire beaucoup plus loin. Donc ils sont obligés de trouver des solutions de système D entre eux. Et je trouve que, enfin. Pour avoir visité des gens qui cherchent des alternatives, il y a beaucoup de propositions dans ce territoire-là. On a l'impression qu'ici, dès qu'on a une difficulté, on va bosser en Suisse et puis on va gagner de l'argent. Donc on n'a pas besoin en fait. Il y a une asso qui s'occupe, les voisins d'ailleurs, qui est à Ferrette, qui accueille, dans laquelle il y a un CADA avec 40 émigrés. Ils ont vachement de mal en fait à trouver des volontaires qui les aident parce que pourquoi aider les gens ici, ils ont qu'à juste trouver un boulot en Suisse et puis ça va aller quoi, et puis il y a une telle ressource, une telle attractivité de la Suisse par rapport à ça, et une telle attractivité de la France parce que c'est moins cher que la Suisse. Du coup, il y a vraiment un problème et une solution.
Ah bah, du coup, nous, on est à côté de l'usine à qui appartient le bâtiment. Et en fait, beaucoup des personnes qui viennent travailler à l'usine viennent de France. Et j'y comprends bien. c'est vite vu. Enfin, il n'y a pas photo. Hein. Mais du coup, ça fait que en fait, c'est des gens qui viennent là pour travailler et qui repartent et qui ne vont pas forcément... Alors, il y en a qui, des fois, prennent le temps de venir un peu jeter un œil. Mais ça se fait assez peu. Et ça peut être pour tout un tas de raisons, mais il y a quand même le truc où, en ayant discuté avec quelques fois avec des ouvriers ou comme ça, en fait, ils se font une heure et demie de route pour venir et une heure et demie pour rentrer. Du coup, tu vas pas forcément t'arrêter, boire un coup à côté, comme si tu prends ton vélo et que t'habites à 5 minutes. Même si les gens qui prennent leur vélo et qui habitent à 5 minutes, ça n'arrête pas forcément non plus. Mais bon, je sais pas. Ça a sûrement une influence sur ça.
Je pense que ça peut créer quelque chose comme ça peut rien créer du tout. Parce que d'un côté, il y a des Français qui viennent travailler en Suisse. Mais les Suisses, ils vont aussi... Enfin, certains vont aussi au magasin en France parce que c'est moins cher, ramener de la marchandise en Suisse, etc. Mais d'un côté, de la même manière que des gens qui viennent bosser ici ne viendraient pas boire un coup ici... les Suisses, quand ils vont en France, ils vont faire les magasins, puis ils rentrent, puis ils ne s'intéressent pas non plus à ce qui se passe sur place, quoi. Donc, y a aussi ça.
Le fait qu'on ait une forte proportion de la population qui a des très hauts revenus, avec des niveaux, des niveaux d'études souvent assez bas. Alors, je ne devrais pas dire ça, mais c'est un mélange qui peut être assez détonnant. C'est vrai que ce n'est pas très mobilisateur, puisqu'en fait, les gens ont les moyens d'avoir des stratégies alternatives. Enfin, c'est comment dire. La problématique écologique, elle va peser énormément sur les catégories les plus pauvres en fait dans la société. Hein. Ça va être ça le grand problème de l'écologie, c'est d'inventer un modèle à la fois écologique et social. Social parce qu'en fait, quand le prix de l'eau il va être à 5 euros le mètre cube, pour quelqu'un qui travaille en Suisse, ça sera pas un problème. Pour quelqu'un qui travaille en France et qui a juste le SMIC, ça va être un vrai problème. Et donc la crise écologique, elle va creuser les inégalités sociales et les gens qui ont peu de revenus, qui sont dans la grande précarité, ça va être extrêmement dur pour eux. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez mettre en place des stratégies alternatives sans aucun problème. Du coup, on est à la fois dans un territoire où il y a pas mal de gens qui ont un fort revenu, mais pas que. On a aussi de la pauvreté dans le Sungo qui est masquée par ça justement. On est dans un territoire où l'environnement, si vous le regardez, il a l'air vraiment en bon état. Enfin, on a un cadre de vie qui est... Donc, du coup, effectivement, les gens se sentent peu mobilisés par ces problématiques-là, en apparence. Après, quand on creuse un peu, quand on mobilise, on arrive à mobiliser les gens. Mais je crois que c'est une problématique qui est générale à tous les territoires. Je ne suis pas sûr que ce soit le fait uniquement que les gens soient... soit frontalier, gagner un peu plus d'argent qu'ailleurs, etc. On parle beaucoup de transition, mais ce modèle-là, l'objectif vers quoi on veut arriver, le modèle de société, pour l'instant, il n'est pas vraiment défini. Et qu'on ne sait pas, pour beaucoup de gens, ce n'est pas ce qu'on va y gagner, on ne sait pas ce qu'on va y perdre. Et donc, beaucoup de gens ont du mal à se positionner par rapport à ça. Donc d'une manière générale, on parle beaucoup d'environnement, mais la sensibilité environnementale, c'est-à-dire... l'envie vraiment que les choses changent à son niveau individuel et au niveau de la société en général, pour moi, ça c'est quelque chose qui est encore assez ténu et encore assez fragile. Et on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut travailler vraiment sur des initiatives d'écologie qui soient positives, qui soient festives, qui soient joyeuses. Et de ne pas transformer l'écologie en une espèce d'austérité, parce que là, ça va être ça. Tous ces sentiments positifs sont complètement contre-productifs pour mettre les gens en mouvement. Et donc, il faut arriver à mobiliser sur de l'écologie vraiment positive, sur des initiatives positives.
bal folk, bah, du coup, c'est un moment de rencontre entre les musiciens et les danseurs. Et il y a plein de danses différentes. Donc on va se retrouver à danser en couple, en cercle, en ligne, en truc. C'est joyeux, c'est festif, c'est bienveillant. Ça se veut très ouvert, donc c'est-à-dire que les danses sont relativement accessibles sans être danseur. On peut tout à coup rentrer dans un cercle, on va être accompagné, pris par la main et tout ça. Après, il y a un côté pas très ouvert dans le sens où c'est un petit monde, donc tout le monde se connaît. Et finalement, comme dans tous les groupes où tout le monde se connaît, quand on ne connaît pas, c'est parfois difficile de rentrer. Et puis il y a un certain look vestimentaire dont on rigole quand on est dans le folk, mais le look pull en laine trop grand, c'est un peu ça a son côté mignon, mais babos pull en laine, ouais, c'est un peu une réalité, quoi. Mais et en même temps, babos pull en laine, c'est cool, c'est souvent des gens qui sont hyper concernés par justement ce qui se passe autour d'eux, qui sont hyper attentifs aux gens, aux lieux, qui respectent tout. Et ça, c'est trop le bonheur. Tu me demandais pourquoi j'aimais le Festival Folk. Et je pense que c'est ça, c'est le respect presque inné, en fait, qu'on a pu retrouver aussi dans un festival d'autostop. C'est un peu ça, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est que les gens, ils viennent là, ils viennent pas seulement en tant que consommateurs, ils viennent là en tant qu'acteurs du festival. Et ça, ça fait un événement qui est beau et qui est un moment de partage intense et chaleureux, quoi.
Le SEL, c'est un système d'échange local.
Sophie, Gabriel, Julien et Arnaud, membres du système d'échange local du Sungo.
Donc le principe, c'est d'échanger des biens, des services et des compétences. On se retrouve une fois par mois. Les mois pairs, nous sommes en général à Dilisay, mais les mois impairs, dans une autre commune, on nous accueille gratuitement. On se retrouve entre 18h et puis 22h. Dans une première partie, on troque des affaires dont on n'a plus besoin, qu'on veut bien donner, sceller, on dit sceller. Et dans une deuxième partie, nous avons une partie récréative avec partage auberge espagnole, où nous partageons ce que nous apportons chacun. Mais il y a aussi parfois des activités.
Un adhérent de la structure est libre de proposer, de présenter quelque chose qui lui tient à cœur. Donc on a eu présentation de cours de Qigong, on a eu une présentation sur le lombricompost. Voilà, c'est assez ouvert. On a eu un concours de petits gâteaux de Noël, les Bredala. Alors d'après ce que j'ai compris en fréquentant le SEL, c'est que cette monnaie, effectivement, cette fausse monnaie nous permet d'échapper à la logique commerciale de laquelle on est dépendante dans la vie de tous les jours. Et là, donc, ça, à la fois, c'est un outil qui nous permet de valoriser quelque chose, mais aussi c'est une dynamique, pas communautaire, mais collective.
Ce qu'il faut dire, c'est que le but n'est pas d'accaparer des biens, des richesses, mais c'est plutôt le côté relationnel qui est plus important. On crée des liens dans notre association, on crée des liens avec les personnes qui viennent, et c'est plus important que ce qu'on échange. Voilà, c'est ça le but. Le but, c'est pas de s'enrichir. Mais c'est tout à fait une autre perspective.
Le mouvement des décroissants, il a existé pendant plusieurs années. C'était aussi en Bretagne, c'était un peu plus, plus vénère qu'ici, quoi. Mais il y a quand même ici, il y a quand même une volonté aussi avec il y a le SEL qui est une assoce basée sur l'échange. Il y a la monnaie locale. Il y a quand même pas mal de gens qui s'organisent pour essayer de vivre autrement. Puis après vivre autrement, mais pas, ouais, voilà, avec quand même certaines limites, puis peut-être aussi des préjugés sur la vie en communauté, ou je sais pas. Et du coup, ben, avec la cantine, on met tout ça un peu en pratique, et puis on permet aux gens de se côtoyer entre assos, pas chaque assos dans son coin. Du coup, c'est intéressant.
Pour des gens qui ont pas mal vécu dans les squats, ben, la cantine, c'est un endroit, tout le monde, toutes les personnes qui ont un peu vécu dans les squats disent que c'est un endroit super clean, ils sont super étonnés, etc., super surpris en bien et tout. C'est les gens, et pour eux, c'est un endroit qui est extraordinaire et qui apporte quelque chose que des endroits un peu moins institutionnalisés n'apportent pas, en fait. Donc pour eux, c'est pas du tout marginalisé, c'est un endroit qui a de l'importance, une valeur énorme, et puis qui devrait, rayonner même encore plus loin. Alors que pour les gens qui, je pense, un peu plus conventionnels, ben, clairement, c'est un endroit marginal avec des marginaux. Et ça, j'aime bien causer de la cantine avec... des gens qui... Parce que finalement, on est dans une région où tout le monde se connaît, et tout le monde connaît la cantine, finalement. Mais de près ou de loin. Et les gens qui connaissent la cantine de loin, souvent, ils disent « Ah ouais, la cantine, c'est là où il y a des clodos, ou c'est là où il y a des hippies. » Donc, les gens qui connaissent de loin, et puis qui s'en foutent un peu, ils voient ça comme quelque chose de très marginal, je pense.
On est dans un monde complètement taré, et puis... ultra soumis au fric et à la domination et tout ça. Et en fait, en regard de ce monde-là, ouais, il va dire que je suis marginal, ce monde-là. Mais oui, après, c'est la marge. Mais la marge de quoi ? Enfin, la marge d'un système complètement merdique. Dans ce cas, oui. Mais après, le truc, c'est que derrière l'idée de marginal, il y a... Enfin, j'ai l'impression, un peu dans l'imaginaire collectif, tu as ce truc où c'est... Enfin, c'est un peu le sous-peuple, quoi, le truc... Puis bon, en fait, tant mieux si on en est, je sais pas. C'est une notion hyper large, la marge, qui a un côté... En fait, qui a un côté discriminatoire et genre qui fait qu'on t'écoute même pas, parce que de toute façon, t'es de la marge et ça arrange bien l'esprit pour pas évoluer plus loin, pas considérer en fait, les trucs que peut-être qui... Enfin voilà, que des fois, on ferait bien d'un peu écouter. Mais c'est ça aussi une espèce de potentiel de possible qui est hyper grand, quoi, enfin.
Has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engine stuck on him, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river. Yeah.
Moins soumise aux contrôles sociaux, bénéficiant de normes moins contraignantes et de davantage de souplesse, plus libres en somme, les marges peuvent faire preuve de plus d'inventivité. Les marges, franges de contact entre systèmes, peuvent ainsi fonctionner comme des interfaces créatives, organiser leur vie propre, en particulier s'il y a perméabilité frontalière et tendance à l'intégration réciproque de deux marges accolées.
Le curé est après moi pour pouvoir effectivement refaire cette église intégralement, quoi.
Daniel Dittmann, maire de Manspach.
Mais seulement, comme on n'a pas forcément énormément de gens qui vont à la messe, pour prendre les impôts communaux, mettre dans l'église, c'est pas génial. Alors j'ai demandé à monsieur le curé s'il voulait jouer le pari d'un partenaire extérieur. Alors il a voulu savoir de qui il s'agissait, je lui ai dit le soleil. Alors, il a fallu le convaincre que ce qui venait du ciel n'était pas forcément mauvais. Et c'est ainsi, effectivement, que nous avons construit, nous avons transformé notre église en centrale photovoltaïque. Alors, c'est un objet qui, aujourd'hui, en termes de production électrique, me rapporte à peu près à la commune autour de 25 000 euros par an en production.
Et ça a coûté combien à installer ?
Ben ça, sur la totalité, on était à 230 000. Mais on a fait l'intérieur aussi, on a fait plein de choses. Hein. Il y avait 230 000 euros, il y avait des subventions du Conseil général, il y avait des subventions de la région, il y avait tout ça. Donc il nous restait à peu près 130 000 euros à charge. Et le reste, effectivement, donc maintenant, on s'est rendu compte que pour amortir ça, ben, on ne sait pas quoi faire. On a trop d'argent par rapport à l'amortissement qu'on a eu à faire.
Là, le toit, il est entièrement recouvert
de panneaux solaires. Ces panneaux solaires, effectivement, sont fabriqués en France. C'est donc Saint-Gobain qui a fait ça. Et il fait ça avec du verre recyclé. Parce qu'ici, dans la communauté de communes, nous pratiquons la pesée embarquée. Les gens ne payent que par rapport au poids de produits résiduels ultimes qu'ils ne savent pas où mettre. C'est pas autre kilo de ça. Effectivement, qui payent leurs ordures ménagères. Donc les poubelles sont pesées. Mais par contre, tous les autres tris, la collecte des autres tris est gratuite. Ils ne payent rien. Donc c'est comme ça qu'on a eu vous l'avez peut-être vu, on a été lauréat de Zero Waste International. Donc on est le secteur de France, là, la communauté de communes, où on a le meilleur tri en termes de tri et également le coût le plus faible à l'habitant. Par rapport au tri. Et ici, donc, c'est un bâtiment énergie positive. C'est-à-dire qu'on produit plus d'énergie qu'on en consomme dans ce bâtiment-ci. Voilà. Donc, vous voyez, c'est, disons, à partir du moment où vous rentrez effectivement dans une gestion développement durable à l'échelle d'un territoire, tout s'imbrique. C'est-à-dire, les choses, elles ne peuvent pas rester toutes seules. On peut faire un truc, on l'a fait. Non, tout va s'imbriquer. Et en s'imbriquant, petit à petit, on découvre de nouvelles choses, on va un petit peu plus loin, on trouve une quantité de choses qui peuvent effectivement faire avancer. Alors évidemment, donc, nous avons également ici, on était les premiers en 1993-94 à mettre en place la phytoépuration, l'épuration des eaux usées du village par les roseaux, on appelle ça des rhizosphères. Donc ça, on l'a mis en place à l'époque, ça marche extrêmement bien en rendant au cours d'eau une eau d'excellente qualité, donc ça fait un bout, quoi. Ça fait un bail, hein. Ça fait très très loin en arrière. On a regagné effectivement la bonne qualité des eaux sur la rivière également, sur les autres communes qui ont travaillé comme nous aussi, hein, qui ont fait certains.
Ça se fait tout seul.
Voilà, ils ont fait un certain boulot et ainsi de suite. Et là, on a eu quand même des surprises intéressantes parce qu'on a vu le retour notamment du castor, des crevisses à pied rouge, des crevisses à pied blanc, tout ça s'est revenu ici. Donc on a fait le tour de tout le monde. Et puis ensuite, effectivement, on a fait une étude globale du bassin versant. On a vu tous les problèmes qu'il y avait. On a poussé les services pour mettre en place un PPRI, un plan de prévention des risques d'inondation sur tout le territoire. Donc tout le long de la largue, là, vous avez tous les espaces plats et inondables qui ne sont pas cultivés. C'est fini, tout est revenu à l'herbe. Donc on a tout fait revenir à l'herbe. Donc il fallait le faire avec les agriculteurs parce que ce n'était pas simple. Alors vous le voyez ici, tant qu'on est en pente, qu'on descend un petit peu, là ils ont le droit de cultiver, mais dès qu'on est en plat, dans les zones humides et inondables, donc là cet endroit finalement, donc ils ont de même, on s'est entendu, on n'a pas fait ça méchamment, on leur serrant le cou. Hein. Et c'est là effectivement qu'on a travaillé avec eux, donc on a fait ça, vous voyez, depuis 1992. Ici à Manspach, bien sûr, une eau potable sans nitrate, ça n'existe pas, il y a toujours une trace. Donc ici, à Manspach, on a une trace résiduelle, j'aime bien le dire d'ailleurs, de 0,6 mg. Alors que dans pas mal de régions de France, on dépasse les 50.
Bon, elle a été créée en 2000, il me semble, ou 99. Et d'abord, dans un premier temps, ça s'appelait le pays du Sungo. Parce que maintenant, ça ne s'appelle plus le pays du Sungo. Mais on est resté sur cette dénomination. Parce que tout le monde comprend de quoi on parle quoi, quand on parle du pays du Sungo. Donc elle avait été créée à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'autres structures intercommunales quoi, d'importance. Et donc ça avait été salué, je me rappelle à l'époque, comme vraiment une grande avancée quand on a mis ce groupement en place. D'autant plus que c'était le premier pays associatif en France à l'époque. Quoi. Donc on était vraiment des précurseurs. Alors, les deux premières actions, autant que je me rappelle, qui ont été faites, c'était la mise en place d'un plan climat, mais ça, c'était qu'en 2008. Ouais, c'était à cause de Leader, pour pouvoir s'occuper de la gestion de Leader et pour lancer l'opération, tu sais, pour les commerces, comment ça s'appelait encore ?
L'OCM,
oui, une OCM, c'est-à-dire pour l'ensemble des commerces du Sungo qui ont pu être subventionnés par ce biais, quoi. D'ailleurs, l'OCM, c'est fini maintenant.
Oui.
Hein. Il n'y a plus de crédit. Tout a été dépensé. Voilà. Ensuite, au bout d'un certain temps, au bout de 10 ans, ça a été transformé en syndicat mixte. Mais ça, c'était pour des raisons administratives. Et puis, en 2015, on l'a transformé, une fois de plus, pour des raisons administratives, en pôle d'équilibre, donc en PETR, en pôle d'équilibre territorial et rural. Mais sur le fond, c'est toujours resté le pays du Sungo, quoi. Pour les élus, pour les habitants, pour les personnes qui sont concernées par ça. Parce que le pays du Sungo, ça veut dire quelque chose, quoi. On est dans le Sungo. Alors, l'objectif officiel, à l'époque, c'était de nous faire économiser de l'argent à nos citoyens, à nos concitoyens. Et moi, je me rends compte que dans la pratique, on n'économise rien du tout. Les poubelles, elles augmentent, l'assainissement augmente, enfin, tout qui augmente de manière très... les impôts. De manière très régulière, et on a moins de services que précédemment. Donc, pour la plupart des maires ici du secteur, et entre autres pour moi, l'objectif n'a pas été atteint. Quoi. Disons que nous, on avait un plan climat qui était volontaire, qui était depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'au niveau du pays du Sungo, le plan climat, il était bien en place, donc on avait des actions qui étaient en cours, des actions qu'on avait programmées, on avait de l'argent grâce à TEPCV, ça fonctionnait. Ensuite, il y a eu donc les nouvelles communautés de communes, et puis le législateur, il a décidé qu'à partir du moment qu'elles faisaient plus de 20 000 habitants, il fallait qu'elles aient leur propre plan climat. Mais là, c'était la loi qui les oblige, c'était plus des plans climat volontaires. Et nous, ce qu'on aurait bien aimé, c'est rester sur notre plan climat volontaire, qui fonctionnait, et puis s'occuper du travail de nos com-com pour leur éviter de mettre un poste en place.
La radio rurale est très liée aux luttes locales, quoi, à ce qui se passe autant les luttes sociales, des luttes écologiques, des luttes culturelles aussi. Enfin, et en fait, ça a participé dans l'histoire déjà. On l'a vu pendant la guerre avec la résistance. Maintenant, c'est aussi un peu une forme de résistance d'avoir une radio locale et rurale. Donc, moi, c'est ça qui me plaît bien avec la radio rurale, en fait. Et après, il y a le côté rural, un endroit a priori où il se passe rien, et en fait où il se passe beaucoup de choses. Et donc la radio, c'est l'envie aussi de transmettre ce qui se passe sur ce territoire où on pense qu'il se passe rien.
Et il y a du journalisme dans une radio, c'est clair. Donc radio associative, il n'y a pas que du journalisme, mais il y a du journalisme. Souvent, il est citoyen, ce journalisme, puisqu'on est bénévole et on n'a pas forcément de carte de presse. N'empêche qu'on a le droit d'être journaliste sans carte de presse. Et forcément, c'est un journalisme de résistance quand c'est les citoyens qui s'emparent des micros et qui font pour une fois autre chose qu'avaler les gros médias tout le temps, partout, dans les sandwicheries, n'importe où. C'est de la résistance de faire du journalisme. Et forcément, à un moment, tu veux parler d'un sujet et tu regardes juste à côté de chez toi, en fait, tout ce qui se passe. Nous, on a beaucoup bossé dans des grandes villes là-dessus. Clermont-Ferrand, quand du 1er mai, on a fait... en Auvergne quand même, parce qu'on y allait. Ouais. Mais en fait, c'est pareil ici. Là, ils ont mis le feu à un poteau 4G. Il y a des gens ils ont mis le feu à ce truc. C'est pas relayé. Effectivement, nous, Radio Quatch, si on peut faire un podcast là-dessus, on y va, on essaie de faire du journalisme.
Il y a tous les anti-linky aussi. En fait, c'est aussi suivre de l'actu. Je pense que le rôle de la radio asso, c'est aussi l'actu, mais sur le territoire, quoi. Donc c'est pareil, les anti-linky, il y en a plein partout. Mais après, niveau de la lutte écologique, c'est aussi presque dans l'ADN d'une radio associative, je pense, d'être écolo. C'est dans l'ADN parce qu'on donne la parole aux gens qui mettent ça en avant ou qui font des projets autour de ça, quoi. Les projets d'épicerie solidaire, les projets de trucs, brasserie artisanale, des choses comme ça, c'est... Il n'y a que les médias comme nous qui relayons ça, en fait, au final. Et le Zungo, c'est pareil, ces campagnes, elles ont ce truc d'être loin du monde, en fait. Et au final, même loin du monde, il faut quand même se transmettre les infos, quoi. Et donner la parole à, peut-être pas toujours aux mêmes non plus, parce que quand on entend la campagne sur France Inter ou sur RTL, c'est parfois vraiment très, très cliché, très, très... Déjà, quand on entend la campagne, en plus, quand on entend l'Alsace, parce que entendre l'Alsace sur France Inter, c'est pareil, en général, c'est assez ridiculisé comme d'autres accents, hein, mais je veux dire, les accents ou le côté...
accent, paysan, salut, ouais, on entend
le côté
plus ça,
paysan et tout, il est... Voilà, tu peux pas avoir un gros accent alsacien et raconter des choses intelligentes a priori quand t'es sur France Inter, tu vois.
Tu peux pas faire de flash info avec l'accent alsacien, ce serait ridicule.
Voilà, les accents en flash info, ça existe pas. Enfin voilà, ça c'est aussi un truc, c'est amener un peu de diversité avec une radio, donc diversité de discours et de voix. Donc c'est aussi le truc de Radio Quatch et des radios associatives en général, c'est pas modifier les voix avec des compresseurs et des machins qui font que toutes les radios... je sais pas si t'écoutes Énergie par exemple, t'as l'impression que tous les animateurs ils ont la même voix, tu vois. France Inter, ça peut faire ça aussi parfois. Enfin, c'est des compressions, c'est des trucs techniques qui font que en fait les radios elles finissent par se ressembler toutes, quoi. Le jingle, ils ont tous un peu... les mêmes rythmes et tout, les voix aussi. Et ça, c'est aussi un truc qu'on ne veut pas faire, nous, quoi. Plutôt, justement, offrir des voix différentes, des accents différents, des langues différentes même.
Il y a deux vocations. Hein, c'est de maintenir les petites fermes, qui, si ça continue comme ça, elles vont disparaître. Il faut dire, appeler un chat un chat. Il y a eu un grand espoir dans la création des AMAP il y a une dizaine d'années. Ouais. Et en fait, on se rend compte que ça retombe. Mais en fait, c'est plus compliqué. Et après, il y a aussi les grosses exploitations qui se sont mises à faire de la vente directe à grande échelle. Avec, dans leur concept, beaucoup d'achats-reventes, etc. Ce qu'on ne fait pas en AMAP. Et voilà, parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a une grosse confusion aussi. Même la grande distribution, elle est en train de reprendre des concepts. On a visité un Leclerc hier, juste pour vous dire, on a visité un Leclerc parce qu'on a un projet de magasin de producteurs à Mulhouse, et on a visité un Leclerc, mais tout est fait pour faire croire aux gens qu'ils soutiennent les producteurs dans leur communication. Mais c'est pas vrai. On est toujours resté dans le même système où c'est la grande distribution qui dicte le prix. Voilà, mais c'est... On surfe sur la mode, en fait. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que les projets, quels qu'ils soient, que ce soit les AMAP ou d'autres, parce qu'il n'y a pas que les AMAP, il faut être ouvert. C'est ça. Voilà, il y a des magasins de producteurs, il y a d'autres initiatives, il y a des marchés aussi. Les marchés ont toujours existé. C'est au détriment de tout ça, en fait. Et c'est encore une fois les petites structures qui vont y perdre, ça c'est sûr et certain. C'est toujours les plus fragiles qui partent les premiers. Hein. C'est plus facile de se faire soutenir sur un gros projet, c'est ce qu'on est en train de faire à Mulhouse, immobilier. Hein. Là, on trouve des sous pour ça. Mais pour soutenir les petites fermes, c'est compliqué. Nous, on n'a pas de subvention, par exemple, à la fruitière. Nous, on touche un crédit d'impôt de 1 700 euros, c'est tout. Donc voilà, après, encore une fois, moi, je préfère ça que le modèle économique de mon voisin qui a besoin d'avoir 80 000 ou 70 000 euros de chiffre d'affaires pour survivre. De subvention.
C'est ça qui est difficile aussi avec l'écologie, c'est de ne pas se laisser récupérer, que ce soit par rapport à l'écologie ou par rapport à n'importe quoi. Là, je pense que c'est ça aussi qui est important au jour d'aujourd'hui, c'est, puis qu'on fait aussi à la cantine, c'est on fait des trucs réellement et que ça soit social ou éco-conscient et niveau de l'éducation et tout, puis on veut pas se faire récupérer par des gens qui prétendent faire ça pour les autres et en fait qui le font que par intérêt, quoi. Et puis c'est pour ça qu'on fonctionne en collectif et puis pas sous forme d'autres structures beaucoup trop basées sur l'argent. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'est pas, je sais pas, une fondation où après voilà, ça dépend toujours comment tu fais le truc, mais je pense qu'au niveau associatif, il y a moins de associatif et collectif, il y a moins d'argent en jeu, voire pas du tout. Et puis c'est pas parce qu'on est l'argent nous permet en gros de payer un loyer, donc de survivre, je sais pas comment dire, que on est dans un truc que on est par exemple une secte ou que c'est négatif, quoi. C'est justement revenir à l'essentiel au niveau du matériel, revenir à l'essentiel pour être capable de se complexiser au niveau social, quoi.
La pédagogie sociale, contrairement à l'éducation nouvelle, elle a pour souhait, en tout cas, de tenter de réenchanter un peu le milieu dans lequel on vit.
Sophie Odiger, cofondatrice de l'association de pédagogie sociale du Sungo.
C'est à partir de cet environnement que souvent on peut dénigrer ou sur lequel on ne s'attarde pas forcément à rechercher les richesses, qu'on a justement envie d'intervenir, de travailler, on cherche à prendre conscience finalement qu'il y a quand même des richesses là où on se trouve, que ce soit des richesses liées à l'environnement naturel ou que ce soit des richesses liées aux personnes qui habitent cet endroit. on part du principe que qui on soit, où qu'on soit, on est quelqu'un dans un milieu donné qui a toujours quelque chose à partager, à offrir. Et c'est vrai que les actions qu'on met en œuvre, on a des surprises. L'an dernier, par exemple, on arrive dans un endroit qui paraît vide, mais en fin de compte, le mouvement des gens, les rencontres des gens permettent de générer, de produire des échanges, mais aussi des choses, des biens. Et on estime qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher un idéal ailleurs pour avoir une vie plus plaisante. Et en remettant en mouvement les rencontres, les gens entre eux, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui peuvent émerger. Pour Halloween, par exemple, on propose aux enfants, on fait soi-même nos bonbons, on fait soi-même nos déguisements. On aime bien cette idée de fêter la fin de l'automne, etc. Mais on essaye de recentrer nos projets autour du sens initial. Et en essayant justement d'échapper aux dictats consuméristes.
Il faudrait qu'on se rassemble une fois tous. Je pense que moi, je suis un peu bisounours, cuicui, les petits oiseaux, et que j'ai l'impression qu'on va tous dans le même sens. Mais je suis quand même consciente que c'est pas vrai. Du coup, la dynamique et ne pas se sentir seule, moi, je la ressens parce que j'ai vraiment l'impression que qu'on peut compter les uns sur les autres à certains moments donnés. Je suis pas sûre que les autres partagent cette idée. Moi, je vois concrètement qu'il y a des interactions entre chaque, et effectivement, c'est notre force de se dire à un moment donné d'aller voir les gens en disant on n'est pas tout seul en fait. Par exemple, moi je l'ai déjà utilisé dans des discussions en disant en discussion pour faire valoir certaines actions, de dire on n'est pas tout seul, et cet événement-là, on le construit avec la cantine de Delémont et la maison de la nature, et ça va nous aider, quoi. On se sent vachement soutenu. La première fois qu'on a créé un événement avec d'autres associations, et c'était super super porteur, super dynamisant, énergisant, etc., quoi.